France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume.
Merci d'écouter France Bleu Paris Découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des spectacles, des événements sur Paris et la région parisienne. Et aujourd'hui, on va vous donner envie, si c'est pas déjà fait, d'aller voir en vrai, sur pattes, en chair et en os, un humoriste dont vous connaissez la voix via les ondes radiophoniques et le physique, mais à travers le petit écran depuis bien longtemps. Ça n'est pas la première fois qu'il se donne sur scène, c'est donc un retour qu'on va fêter, celui de Coé dans 100% libre à la Comédie de Paris. Sébastien Coé, bonjour et bienvenue.
Bonjour, comment ça va?
Ben ça va bien et vous-même?
Oui, ça va très bien.
Oh, je suis content, je vais vous voyez.
c'est vrai qu'on se dit tu.
Car nous recevons aujourd'hui Coé, l'animateur, l'humoriste, le comédien, et Sébastien Coé, le petit garçon qui rêvait de faire de la radio, de la télé, d'être connu, et qui a grandi en réalisant ses rêves quand même. C'est un peu ça le point de départ de ce nouveau Seul en scène à découvrir. Donc tous les lundis en ce moment, au 42 rue Fontaine dans le 9e à Paris, c'est la Comédie de Paris. On va bien sûr en parler. Bon, avant ça, je voulais faire un petit retour en arrière. Le premier Seul en scène, Sébastien, c'était en 2012, je crois.
Oui, on a démarré. Oui, c'est ça,
Picard,
2012.
Forever.
Oui, ouais, c'était ça.
c'est joué plus de 300 fois, je crois.
Oui, presque 400 même, je crois.
Pas mal. Dans toute la France, à Paris, il y a quand même eu 3 soirs à la Cigale, qui est un peu une salle un peu mythique.
Magique.
Et puis le Palais des Sports, non mais c'est dingue.
Le
comme,
Palais
un,
des...
comme un rocker.
Oui, le Palais des Sports, c'était... j'ai eu du mal à croire que tous les gens qui étaient dans la salle étaient venus pour moi. Jusqu'au dernier moment, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc de Johnny qui est organisé ou... c'est incroyable, oui, ça fait partie des rêves de gamin, je crois qu'on n'oublie pas ça.
Et ça, c'est quand on fait une tournée comme ça dans toute la France, qu'on arrive à Paris, au Palais des Sports, à la Cigale, y a... mais sur la tournée, il y a des moments vraiment qu'on garde en mémoire, c'est celui-là?
C'est celui-là pour l'angoisse et pour une espèce de petite consécration de fin.
Bah oui.
Parce que, mais c'est 5000 places, c'est énorme. Alors après, je vais vous faire une petite, vraiment une petite confidence.
Allez-y.
C'est pas forcément l'endroit le plus agréable pour jouer. Parce que on est devant une marée humaine, on n'arrive pas à voir un seul visage. Bizarrement, c'est pas très impressionnant de jouer devant 5000 personnes, parce qu'on voit vraiment personne. Et moi, j'ai fait le one man pour voir les gens, pour voir les têtes, pour voir les réactions, pour entendre un fou rire, pour remarquer quelqu'un qui va me faire un commentaire, qui va. J'adore quand je raconte un truc sur scène et que quelqu'un me fait oh oui ou ah bah oui il a raison et que les gens commentent.
C'est ça en plus, hein.
Voilà. Et quand vous êtes dans des énormes salles, il y a moins ça. Donc j'aime en fait alterner les deux. Ça c'est magique.
Et il y a une petite salle où il s'est passé un truc vraiment. Mais non, mais c'est un peu loin. Pour se souvenir, parce que...
Alors non, franchement, Comédie de Paris, il y a 3 semaines quand on a commencé à Paris,
ouais.
Le premier soir, j'étais un petit peu anxieux, parce que c'est Paris, c'est pas, on sait tous que ce n'est pas l'ambiance la plus dingue de France, il faut que les gens se dégèlent un petit peu, ils ont du mal à se garer, bon, en plus...
Et oui, surtout dans ce quartier, mais bon, on peut venir en métro. Hein.
Je crois que c'est tous les quartiers. Et je crois que, voilà, finalement, tout se passait bien, et il y avait un petit jeune, et à un moment donné... Je pose une question au public parce que j'attaque un sujet qui est tabou mais qui ne devrait pas l'être. Je parle de masturbation.
Oui, bien
mais
sûr.
Je ne demande pas aux gens qui l'a fait, je demande aux gens surtout qui ne l'a jamais fait.
Ouais.
Et il y en a un qui a levé la main et qui avait 16 ans et qui très honnêtement a dit ben moi jamais.
Quel menteur.
Et ce soir c'est mon anniversaire.
Ah c'est pas vrai.
J'ai dit c'est incroyable, tes parents t'ont amené à Pigalle pour ton anniversaire. ça risque d'être magique. Voilà, il y a des moments comme ça qui sont top. Plus le public participe, plus je suis heureux.
Moi je me demande toujours pourquoi quelqu'un qui a une longue carrière derrière un micro ou devant des caméras se dit tiens bah maintenant, je vais aller sur scène devant les gens pour de vrai.
Je sais pas. Même moi, des fois, je me pose la question. Oh. Vous avez des soirs, c'est blindé de gens. Et je dis ça sur les 5 années hein, de One Man. Des fois, vous arrivez dans des endroits, on a tous vécu ça, où les gens sont un peu plus frileux. Les 10 premières minutes, parce que le One Man, il est tellement génial que tout le monde se décrispe. Vous avez des moments comme ça de point d'interrogation. Et des fois, même moi, je me dis pendant une seconde, mais pourquoi?
Pourquoi je suis là?
Pourquoi je suis pas dans mon canapé? J'ai fait une belle semaine de radio, j'ai fait des belles vidéos, pourquoi? Et puis, dès que j'entends les premiers rires, je me dis, ah bah non, je sais pourquoi je suis là.
C'est la récompense. Alors, pour ceux qui n'avaient pas vu le premier spectacle, le premier Seul en scène, ça s'appelait Picard Forever.
Ouais.
Bon, ça, c'était les origines, hein, c'est ça, c'était un peu ce souvenir d'où on vient.
C'était ça, c'était des rêves de gamin, c'était un peu une thérapie, parce que j'avais jamais parlé de ma jeunesse, et je me suis dit à un moment donné, je pouvais pas parler de moi sans parler de la mort de mes parents. Mais alors, est-ce que ça se fait dans un one man? À quel moment ça se fait? Comment ça se fait? Parce qu'il y avait, et j'avais toujours peur que les gens n'en rient plus. Et puis que ça soit arrêté net. Et je me suis rendu compte que pas du tout.
Ah
et
non, on rigolait bien.
Oui, et puis j'ai essayé de l'inclure en me disant voilà, malheureusement, la disparition des êtres chers, ça fait partie de la vie.
Ouais.
Et qu'il faut trouver de l'amusement dans tout. Et qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent, là, qui ont des galères de facture, des galères de santé. Et qui se disent bah oui, il faut essayer de trouver de la rigolade dans tout. Sinon, on jette les dés et puis on dit on arrête tout.
Oui, sinon, on arrête ce métier. Alors, on va revenir sur votre parcours, justement, de Saint-Quentin à Marly. Marly, c'est une commune. Hein.
Marle,
Marle. Ah, Marle, pardon.
Ah oui, petite ville. de laine.
Dans l'Aisne, oui. Exactement. Jusqu'à Paris pour vous envoler sur la bande FM dans les années 90, on va dire. Et puis en devenir un des animateurs phares, la télé aussi. Et aujourd'hui, Coé est votre invité sur France Bleu Paris Découverte. On parle de son seul en scène 100% libre.
France Bleu Paris. France Bleu.
Les hommes, les anges, les vautours, y'a plus de distance. Personne qui ait les bras trop courts, tout le monde espère. Même à l'arrière des arrières-cours, tout le monde veut son billet retour. D'amour, 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 son éclat de chance. Celui qui vous brûle vous inonde, mais le ciel s'en balance. Puisqu'il n'y en a pas pour tout le monde, il y a des gens plein les urgences. Sous les lumières des abat-jours qui attendent leur billet retour. D'amour, 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 d'amour. Des pistes trempées d'alcool dans ces caves immenses, les cheveux collés aux épaules s'envolent en silence et s'éparpillent au petit jour en cherchant des billets retour. D'amour, 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 d'amour. Qui s'avance en tenant au bout de leurs bras ces enfants qui lancent des pierres vers les soldats, c'est perdu d'avance. Des cailloux sur des casques lourds, tout ça pour des billets retour. D'amour, 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 d'amour. Les hommes, les anges, les vautours. Personne qui ait les bras trop courts.
On y pense. Francis Cabrel sur France Bleu Paris.
France Bleu Paris, découverte.
La radio, la télé, les parodies, l'humour de M6 à C8, de NRL à NRJ. Ouais. Et oui, de NRL. Voilà, il fait partie de l'histoire de l'AFM. Il a connu les radios libres, les chaînes de télé qui débutent. Et puis depuis quelques années, c'est aussi sur scène qu'il s'exprime. Coé est votre invité aujourd'hui pour parler de 100% libre, son nouveau seul en scène. Coé, c'est un peu, donc je le disais tout à l'heure, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a envie de devenir célèbre. Ça commence comme ça d'ailleurs, on entend une voix d'enfant qui appelle une radio. Ah, je veux faire de la radio, de la télé, devenir célèbre, faut faire comment? Et alors on lui répond,
tu n'y arriveras jamais.
Et je me suis dit, ça a dû arriver ça, Koé.
C'est, alors, très honnêtement, c'est presque arrivé et c'est pas arrivé. C'est-à-dire que j'avais commencé quand j'avais 10-11 ans à appeler des radios et on m'avait dit, ouais, enfin bon, je sentais vraiment que... qu'il y avait aucun truc. J'essayais de sonder parce que j'avais pas la prétention de dire est-ce que vous pensez que je peux. Mais quand je parlais de l'âge, je me disais non, mais alors il nous faut des gens. Je sentais que j'y arriverais pas. Et c'est un jour, j'avais une tante qui était fantastique. Je faisais des jingles dans ma chambre. J'avais 13 ans, 13 ans et demi. Et je lui dis, il y a une radio à 25 km. À l'époque, les radios locales étaient surpuissantes.
Ouais, ouais.
Et elle me dit, mais vas-y. Qu'est-ce que t'as à perdre? Décroche le téléphone. Et j'étais chargé de d'énergie. Je suis rentré, j'ai pris le téléphone. Mais j'ai dit, est-ce que vous avez un problème avec l'âge? Elle m'a dit, pourquoi? J'ai 13 ans et demi, 14. Et là, a commencé l'aventure. J'étais derrière le micro, je crois, 3 mois après.
Non, c'est vrai? À 13 ans?
Oui, mais c'était ça qui était magique à la radio. On pouvait faire croire qu'on avait...
Mais vous alliez à l'école?
Oui, mais mon père était fantastique, parce que mon papa m'emmenait moi j'habitais Marle, Lens était à 25 km, il m'emmenait, il revenait me chercher, et il faisait ça le samedi, le dimanche, j'ai fait ça jusqu'à ce que j'ai le permis, jusqu'à 18 ans, et jamais il m'a dit, oh, ça m'emmerde, j'ai autre chose à faire, il m'emmenait à la radio, je passais mes week-ends là-bas, et je trouvais ça fantastique d'être derrière le micro à 14 ans, c'était génial.
Donc ça veut dire que depuis tout petit, vous rêviez de faire de la radio précisément?
Je trouve ça incroyable, je trouve que c'est un outil.
C'est rare quand même.
Oui.
Peut-être plus maintenant.
Je crois que maintenant, je sais pas si c'est un métier aujourd'hui où il y a encore beaucoup de jeunes qui ont envie de faire notre métier. Je crois que maintenant, beaucoup de jeunes ont se rendu compte que YouTube c'était génial et qu'on se met dans la chambre et que le monde entier peut nous voir.
C'est vrai.
Qui est vrai.
C'est vrai.
Quand on est derrière un micro de radio, on se dit pas que New York on va être écouté par Madonna. Mais moi j'aimais bien le côté caché, j'aimais bien ce côté où on peut faire croire qu'on est plus vieux, plus beau, où on peut mettre des bruitages et où on pouvait faire. Je continue avec ce même plaisir,
c'est la
aujourd'hui.
Magie de la radio.
Je continue là en 2019, quand je fais des conneries derrière le micro, j'ai le même sourire de gamin que quand j'avais 14 ans, en fait.
Ça veut dire que s'il y a des parents qui nous écoutent, et il y en a de nombreux, qui ont un gamin ou un petit ou une petite à la maison de, bah oui, on va dire 10-12 ans, je veux faire de la radio, bah pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un métier.
Moi, je sors un livre là, au mi-mars, oui, chez Robert Laffont.
Tu peux faire ça, point d'exclamation,
alors,
dans les coulisses de la télé.
On a changé le titre.
Ah, c'est vrai, comment ça s'appelle?
Ouais, ça va s'appeler ça va s'appeler T'es habillé comme tout le monde, tu ressembles à personne. Qui était une phrase de mon père et que je trouvais qu'elle me résumait bien. T'es habillé, et quand j'arrivais, il me disait, mais t'es habillé comme tout le monde, toi, tu ressembles à personne. Et c'est un peu ça, en fait.
Mais c'est l'idée de, tu pourras quand même
C'est de revenir sur ma vie, c'est plein de coulisses, évidemment, vous en doutez bien, de la radio et de la télé. Et c'est aussi un message pour plein de gamins et qui se dit, j'ai un rêve, mais j'habite en banlieue, mes parents sont pas dans le métier, j'habite dans une petite ville, j'y arriverai jamais. Si, en fait, je crois que si on a beaucoup de rêves, peut-être un petit peu de talent, et qu'on remonte ses manches et qu'on y va, si, je crois qu'on peut arriver à beaucoup de choses.
Bon, puis maintenant, il y a des écoles. Enfin, il y a une école.
Oui, mais ça vous rajoutera pas le talent.
Ah, mais bien sûr.
Ni le courage.
Et la volonté de réussir aussi, malgré tous les problèmes. Et vous, d'ailleurs, qui avez deux enfants, maintenant, c'est un peu grand, mais vous leur parlez, vous leur dites quoi, s'ils veulent se lancer dans le spectacle ou pas?
Si au moins ils voulaient se lancer dans quelque chose. Je sais plus quoi faire.
C'est vrai.
N'avez pas une émission sur France Bleu qui traite parents-enfants, que
si,
j'appelle
avec une
voix masquée?
Si, toute la journée, on parle justement.
Bonjour, Sébastien de Paris, mes enfants. Non, si, j'ai une fille qui j'en parle dans le spectacle, et
ouais,
ils étaient là lundi, ils sont venus me voir lundi. C'est toujours très gênant de jouer devant ses enfants, parce que dans le spectacle, tu l'as vu, Laurent,
dans
le spectacle, voilà, je passe de sujets plus graves à des sujets plus légers, voilà, j'attaque des fois là, des sujets où...
Oui, mais on parle de tout.
On parle vraiment de tout, et quand je savais que mes enfants ont 17 et 19, pas non
ça
plus
va.
Mais je suis toujours gêné parce que je parle de mon fils, je parle de ma fille à la fin, et ce qui est dedans est vrai quand même, donc je suis toujours un peu embêté quand la lumière, je jette un œil, je les vois rire, je fais, ah, c'est bon, ça va, ils vont pas me faire la gueule.
Alors l'histoire du hamster et du poisson rouge, c'est vrai quoi?
Tout
que
est vrai.
Je sais plus, vous aviez jeté le poisson rouge.
J'explique que j'avais voulu prendre le hamster de ma fille, je fais tout un truc sur les animaux parce que je rajoute maintenant sur les animaux parce que je me suis rendu compte que ça éclatait les gens, donc je fais les chiens, les chats, et je parle du hamster de ma fille, et je ne sais pas, c'est cet animal qui ne sert à rien.
Oh, bah oui.
Et qui se réveille vers 3 heures du mat avec une patate de malade et qui se dit, tiens, si j'allais courir dans ma roue, et que, qui vous a fait passer une nuit comme ça, et qu'à 7 heures du mat, lui, il dort comme un dingue, alors que nous, il faut qu'on commence la journée. Oui, j'ai fait tomber un jour le hamster de ma fille, que j'avais fait un peu croire qu'il était encore en vie.
Pendant quelques temps.
Oui, ouais. Voilà, le poisson rouge à côté du bocal, je crois que c'est arrivé à tous les gens qui m'écoutent.
C'est vrai.
Donc on essaie de le remplacer par un autre qui ressemble, il faut l'enterrer dans les toilettes. Enfin voilà, j'explique vraiment tout ça dans le spectacle, mais c'est vrai à chaque fois, oui.
Vous avez remarqué que c'est extrêmement grand public dans la salle, parce que moi, je l'ai remarqué. Je l'ai remarqué. Il y a tous les âges, il y a tous toutes les générations. Il y avait même une Denise devant moi qui avait les cheveux blancs et qui se marrait du début jusqu'à la fin. Et il y avait un gamin,
c'est vrai.
Permettre cette expression de 17 ans, je crois.
Lundi, mon fils est redescendu de la loge. Il était passé dans la salle. Il est redescendu dans la loge, mais 3 minutes avant le spectacle, il me dit oh, il dit c'est plein. Bon, je lui dis écoute, je suis très content. Il me dit mais alors dans la salle, c'est pas du tout ton public.
Si, bien sûr que
Alors, je lui dis mais c'est quoi mon public? Bon, mon fils est resté un peu bloqué. Il pense que mon public a 15-16 ans obligatoirement.
Non,
je lui dis mais non, mon public c'est tout le monde. Et il avait raison. Dans la salle, ils avaient 40, ils étaient venus en couple, ils avaient 25. Il y avait des enfants qui avaient voulu venir avec les parents. Il y avait des personnes plus âgées au premier rang qui rient. Je les vois se secouer un petit peu, qui se décoincent au fur et à mesure. Voilà, c'est ça. Ça c'est fabuleux. C'est ce que je voulais faire.
Ouais. Et ben voilà, c'est donc grand public. Ça s'appelle 100% libre. Bon, est-ce qu'il est vraiment d'ailleurs 100% libre? Est-ce que sur scène on peut se permettre plus qu'en radio ou en télé? D'ailleurs, ce milieu de la télé, je crois qu'il en parle un petit peu dans un prochain livre qui sortira, je crois, au mois de mars et qui a changé de titre, on le rappellera tout à l'heure. Coé se raconte sur scène et nous dévoile quelques anecdotes sur le monde des médias dans ce livre. On en parlera aussi dans un instant.
France Bleu Paris.
Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. And you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone.
Shotgun, c'était Georges Ezra. Dans un instant, Muriel Jordan, accès privé, et on retrouve Coé.
12h-13h, France Bleu découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant. France Bleu.
À la mi-journée sur France Bleu, les initiatives s'invitent dans Une Heure en France.
On parle du Fontainebleau, une spécialité fromagère de Seine-et-Marne. On s'intéresse à des kits hygiéniques distribués aux femmes SDF partout en France. Et enfin, on découvre tout ce qu'il faut savoir pour démarrer dans la généalogie.
Frédéric Le Ternier, Denis Farou, Une Heure en France sur France Bleu, dès 13h. France Bleu, partenaire du Paris Grand Slam de judo. Du haut niveau et du grand spectacle avec les meilleurs judokas internationaux venus des quatre coins du monde. Rendez-vous les 9 et 10 février à l'Accor Hôtel Arena de Paris. Offrez-vous le meilleur du judo.
Le Paris Grand Slam de judo 2019, c'est sur France Bleu.
Toutes les infos, le programme et les vidéos sur francebleu.fr.
On répète après moi. Ver de terre.
Ver de terre.
Coup. Vert.
Couvert.
Uni.
Qu'est-ce qu'elle a, la maîtresse?
Bah, tu sais, c'est bientôt le week-end.
Il y a mieux pour vous encourager à passer au vert. Chez EDF, nous proposons Vert Électrique Week-end. De l'électricité verte et en plus, moins cher le week-end. Devenons l'énergie qui change tout. Appelez le 3004 ou rendez-vous sur edf.fr/vert-électrique-weekend. Service et appel gratuit, offre à prix de marché pour les logements équipés d'un compteur communicant. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
France Bleu, Paris.
Il est midi et demi, c'est l'heure de retrouver Accès Privé avec notre reporter Muriel Jordan. Sébastien Coé, écoutez-moi bien, elle nous ouvre tous les jours des portes de lieux totalement inédits, inaccessibles au public, c'est son truc, elle nous le fait le partager. Bon bah voilà. Alors là, on va découvrir en avant-première les secrets du métro. Vous prenez le métro encore ?
Pas du tout.
Bon, bien joué. À travers une visite inédite à Paris, face cachée, c'est en ce moment, c'est un événement qui aura lieu à partir de vendredi jusqu'à dimanche. Et alors par exemple, au programme, la découverte d'une station fantôme,
ah, j'adore ça.
Qui sert à des tournages de films. Un épisode en deux parties, voici le premier.
Bon, c'est une ambiance que je connais bien ici, on est dans le métro Gare du Nord, station Gare du Nord. Pourquoi vous m'avez donné rendez-vous ici ?
Alors on est ici, on est venu à Gare du Nord parce que c'était une des stations principales de la RATP et qu'on est face à d'abord un plan indicateur luminosité d'itinéraire, un pili, un objet que les Parisiens ont bien connu et connaissent encore bien dans quelques stations puisqu'on les conserve au titre du patrimoine et qui permettait de trouver le parcours le plus rapide pour aller d'une station à une autre.
C'est ce qu'on voit là.
C'est ce qu'on voit là, tout à fait. Ouais, c'était cet objet, on va dire un peu vintage du métro. Voilà. Et ensuite, on va aller maintenant découvrir des stations fermées et inaccessibles au public.
Tout est normal. Tout à fait. Sauf que je n'ai pas besoin de mon pass Navigo pour une fois. C'est VIP.
Vous êtes invité.
Donc là, on va prendre le métro pour aller retrouver la station Porte des Lilas sur la ligne 11. C'est hyper VIP parce qu'on est dans la cabine avec le conducteur.
Et là, on a la chance justement, donc ça permet, grâce à la mobilité de notre collègue, donc ça permet de bien voir ici cet ouvrage souterrain important d'arriver sur Gare de l'Est. On voit la ligne 5 et la ligne 7 mitoyennes et donc justement cette arrivée un peu monumentale du réseau souterrain. T'as bientôt fini ?
Ouais, dernier tour, cool.
Alors je remarque que par moment il y a des écrans là à côté pour fermeture, ouverture des portes et, ou des miroirs.
Alors en fonction en fait de la courbure du quai et des installations, soit on met des miroirs, soit on met des vidéos. L'objectif c'est que le conducteur puisse apercevoir l'ensemble du train et pouvoir fermer les portes et partir en toute sécurité. Voilà, c'est vraiment l'objectif de ces installations qui peuvent être effectivement soit miroir, soit télé, soit les deux.
Et cet écran là, face à lui, face au conducteur, qu'est-ce que c'est ?
Il encadre en vert, ce qui me dit que mon signal de sortie est ouvert.
D'accord.
Donc, voilà. S'il aurait été fermé, il aurait été rouge avec un double zéro rouge.
Et cette croix-là, ça veut dire quoi ?
Donc en fait, la croix blanche, c'est la croix de Saint-André. Voilà. Donc cette croix, en fait, se met en place à la place des couleurs du signal pour indiquer que le train a bien été pris en compte et que toute la signalisation de la ligne est reportée dans la cabine du conducteur. Voilà. Si le train était ce qu'on appelle nous mauvais PA, mauvais Octis, cette signalisation serait maintenue allumée et donc le conducteur aurait malgré tout toutes les informations nécessaires pour continuer sur le côté sur la voûte comme une signalisation actuelle classique.
Ah d'accord, donc quand nous voyageurs on est au bord du quai qu'on voit cette signalisation dans le tunnel croix, ça veut pas dire il faut pas avancer. Rien à voir.
Ah, rien à voir, non pas du tout, c'est vraiment une indication pour le conducteur, ça veut surtout dire que le métro arrive en fait.
Bon ben on est arrivé. Merci beaucoup.
Merci pour les explications.
Bon courage parce que le conducteur est quand même réveillé depuis 5. Enfin, il bosse depuis 5h15 ce matin.
Oh bah ça arrive ça. Hein. Bah voilà, c'est fait. Alors pour connaître les visites des lieux interdits proposés par Paris Face Caché, il y a un site internet parisfacecaché.fr. Deuxième épisode, on retourne demain avec Muriel dans le métro.
France Bleu Paris, découverte. Laurent Petit-Guillaume.
Coé à la radio, on sait jusqu'où il peut aller. Coé à la télé, on sait jusqu'où il est allé. Coé sur scène, c'est sans doute encore plus de liberté pour le savoir. Rendez-vous tous les lundis à la Comédie de Paris, dans le 9e arrondissement, c'est rue Fontaine. C'est jusqu'au mois de mai, je crois. Hein, ça va durer. C'est bien. Le lundi en plus.
Mais moi, je trouve ça génial le lundi parce que j'avais toujours peur. J'avais peur du public du lundi. Je me suis dit, oh là là, comment ils vont être et tout. Et en fait, je me rends compte qu'ils sont fantastiques. Lundi, là, ils étaient incroyables. C'est un vrai plaisir. Ouais, lundi, c'est bien.
Et ben voilà, 20h45, 100% libre. C'est le titre de ce spectacle. C'est vrai que c'est nécessaire de le préciser, 100% libre.
C'est un peu le thème du spectacle. C'est-à-dire qu'on va vraiment. On peut raconter ce qu'on veut et on peut rire de tout. Quoi.
C'est vrai. Et dans ce spectacle, donc effectivement, vous abordez tous les sujets. On va passer de Tinder au problème de la lunette des cabinets de toilettes. C'est quoi déjà le problème de la lunette des cabinets de toilettes?
C'est la différence entre les hommes et les femmes. Et c'est parce que je parle des couples, à un moment donné, effectivement, s'ils se sont rencontrés sur Tinder. Donc, cette espèce de gêne où tout le monde baisse la tête, où on a l'impression que personne ne connaît cette application. Donc, j'explique aux gens ce qu'on peut y trouver. Je demande d'arrêter avec les filtres. Je fais tout un truc sur les filtres des photos. Et on arrive aux lunettes des WC de ce mystère que je ne comprends pas dans un couple. Et je vois que les couples se donnent des coups de coude parce que je pense que ça doit être des engueulades. Si on doit la laisser en bas, la lunette, ou si on doit la laisser en haut.
Bah oui.
Et chaque soir, j'entends des versions différentes. Lundi, j'avais une dame qui a dit en bas. Il y en a une autre dans le fond qui a dit bah non, en haut. Donc je crois que personne, il faudrait sortir un bouquin entier. Ouais, je crois que personne n'a vraiment la réponse.
Ah, ça peut être des soirées de débat. Alors évidemment, il y a beaucoup d'interventions de vous, de Sébastien, de Coé, parce que vous vous interrogez le public et il y a de la répartie obligatoirement. C'est jamais le même spectacle en même temps.
Non, ça c'est extraordinaire. Ils ont tous un truc à dire. Ils ont tous. Quand je parle évidemment des prénoms un peu étranges, il y a toujours des gens qui ont des prénoms étonnants. Ils ont toujours des réactions incroyables quand je rencontre. Je parlais notamment des rencontres des couples, puisqu'à un moment donné, on enchaîne sur 50 nuances degrés.
Oui. On a écouté l'extrait tout à l'heure, c'est très bon ça.
Je leur dis quand est-ce que vous êtes rencontrés pour la première fois. Et il y a un truc qui est incroyable, c'est quand je leur dis vous êtes ensemble depuis combien de temps, c'est toujours madame qui dégaine en premier et qui dit « c'est moi ». Ou 6 ans, mais c'est elle qui tout de suite à la date, et je vois le type qui est encore en train de chercher. Il a la raison, c'est 1, 2, 3, 4. Oui, ça doit être ça.
C'est le fameux anniversaire de mariage qu'il faut jamais oublier ou de rencontre.
Mais mesdames, vous avez une mémoire de tout, et nous, c'est vrai que bon, il y a 2-3 trucs qu'on oublie.
Bon, bref, il y a tous les sujets qui sont abordés. Il y a même le suicide à un moment donné. Oui. Ah oui, c'est vrai, c'est pas évident ça aussi.
Ça fait partie de la vie, et j'explique que quand on a vécu, on a tous eu une microseconde dans notre tête à un moment donné, un problème dans notre vie qui fait qu'on se dit j'en ai marre. Voilà. Et si ça s'arrêtait maintenant? Heureusement qu'on le fait pas. Et je le dis d'ailleurs dans le spectacle, je suis contre le suicide et je ne saurais pas comment faire. Et je m'amuse, je sais pas si on peut dire s'amuser, à prendre toutes les façons, y compris à dire bon, si un jour vous le faites, faites un truc impressionnant, voilà, qui vous fait rentrer en carré VIP au paradis. Mmh. Évidemment, c'est ça qui m'amuse de rire avec des choses qui ne le sont pas forcément. Parce que je trouve que les plus belles comédies naissent souvent de choses qui sont pas très drôles, ils ont souvent des axes dramatiques. Prenez la Grande Vadrouille, qui est l'un des plus grands succès. La Grande Vadrouille, si vous enlevez le talent de Bourville, le talent de Funès, l'histoire est dramatique.
Bien sûr.
Ça se passe pendant l'occupation. Et le pauvre perd son boulot, ils doivent traverser la France, la zone occupée. Ça n'a rien de drôle sur le papier, et ça devient l'une des plus grandes comédies de tous les temps. Je trouve que chatouiller un peu là-dessus ou sourire de ce qui ne l'est pas.
Enfin, c'est quand même un petit peu parfois dangereux, et vous savez très bien ce que vous voyez très bien ce que je veux dire, il y a quelques années, vous avez eu quand même quelques petits procès, quelques petites inimitiés avec certains collègues à cause d'humour qui était un peu allé. Pas provocation hors des sentiers battus, mais un petit peu difficile à gérer. C'est pas évident.
C'est pas évident. Et puis, mais en même temps, vous savez, moi, je fais ce métier depuis que j'ai 14 ans. J'en ai maintenant.
Oui, quand même.
Et je trouve que sur des milliers d'heures de radio, de centaines d'heures de télé, de centaines d'heures de vidéos sur YouTube, voilà. Des fois, alors, il y a des fois la blague qui passe pas, il y a des fois la blague qui est pas drôle. Attention, hein, on n'a pas le royaume du bon goût, hein. Des fois, on en fait des très moyennes, mais bon, voilà. Et vous avez des fois la personne où vous faites une blague qui la prend mal. Bon, ça fait partie du truc. Moi, j'ai toujours essayé de faire en sorte de me moquer des choses, mais toujours avec bienveillance. Je crois que c'est le point commun, que ce soit la scène, mes vidéos, que ce soit la radio. Je crois que c'est toujours ce truc, ce point commun. Je crois que je peux me moquer de beaucoup de choses comme un sale gosse, mais il y a toujours une espèce de bienveillance où je veux jamais passer cette frontière. Je me moque, mais je me moquerai de quelque chose, mais bizarrement pas de quelqu'un. Mmh. Et si je me moque de quelqu'un, c'est de l'image, c'est de ce qu'il y a autour, mais pas profondément d'une personne, parce que j'aime pas attrister quelqu'un.
Et puis, comme on dit, on peut pas plaire à tout le monde, et si ça en énerve ou si ça plaît pas à certains, ben c'est pas grave.
Oui, mais je vais vous dire un truc, je ne lis que des commentaires incroyables pour le spectacle de gens qui me disent, je suis arrivé, j'étais pas fan. J'aimais
ah
pas
bon
le... Oui, j'ai lu des « j'étais pas fan, c'est mon mari ou c'est ma femme qui m'a fait venir, je suis reparti comblé, je vous ai découvert, etc. » Je me dis qu'à 46 ans, ah ça y est, j'ai lâché l'histoire.
Ah, il l'a dit.
Je me dis que s'il y a toujours des gens qui vous découvrent, que ce soit à la radio, sur scène ou ailleurs, bah c'est génial.
Gamin, va. Je suis sûr que quand vous vous baladez dans les rues de Paris, par exemple, on vous demande quand est-ce que vous allez revenir à la télé. J'en suis sûr et certain. Bah, on n'est pas dans la rue, mais je vais quand même lui poser la question dans un instant.
France Bleu Paris.
France Bleu. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old.
7 years, c'était Lucas Graham sur France Bleu Paris.
France Bleu.
Jusqu'au 14 février sur francebleu.fr, envoyez-nous la photo de votre coin de campagne favori.
Le meilleur cliché sera récompensé par un week-end à Paris. Transport et hébergement compris pour deux personnes à l'occasion du Salon de l'Agriculture 2019. À vos appareils photos et rendez-vous sur francebleu.fr pour découvrir toutes les photos en ligne.
France Bleu Paris.
France Bleu.
Il rêvait de faire rire les gens, chose faite depuis de nombreuses années maintenant à la radio, à la télé. Aujourd'hui, c'est sur scène que Coé fait rire les gens dans 100% libre. Alors en ce moment, c'est la Comédie de Paris, célèbre théâtre de la rue Fontaine dans le 9e, autrement dit le quartier de Pigalle.
Oui.
C'est le lundi à 20h45. Moi, je sais pas, je trouve que cette rue Fontaine, ce quartier, vous va bien, Coé.
Ah ouais?
Non mais ça n'a rien à voir avec l'image de Pigalle, mais c'est un Paris populaire, c'est un Paris touristique, c'est un Paris qui accueille tout le monde, c'est un Paris de liberté,
ouais,
c'est un Paris un peu bordélique mais qu'on aime.
Je vais être honnête avec vous, je découvre le quartier,
c'est
parce
vrai.
Que j'habite pas du tout ce coin-là. Je l'ai découvert avec le théâtre et je me suis un peu perdu la dernière fois dans les rues à côté.
Mais oui.
Et je trouve voilà qu'il y a je pense que ça va être de plus en plus agréable. Je pense qu'à partir du mois de mars avec les terrasses etc.
Bah bien sûr.
Voilà, vous montez, vous avez le Moulin Rouge et c'est vrai que sortir du théâtre et voir ce Moulin Rouge, un peu historique, c'est très étonnant.
Ben oui, mais c'est un quartier, historiquement, depuis la fin du 19e siècle, c'est là où on se marrait, c'est là où on faisait la fête, où on s'en canaillait, où il y avait des gens qui dansaient, qui riaient, des humoristes.
Ben je trouve ça génial.
Il y avait la Goulue.
Je trouve ça...
je fais pas de rapprochement entre les deux. Hein.
Je suis la nouvelle Goulue.
Même s'ils mangent deux côtes de bœuf, ouais, voilà.
Non, mais en plus, c'est même pas vrai. Ça, pour le coup, c'est une vanne dans le spectacle. Bon, mais ce qui est même pas vrai, je mange plus de viande. Mais oui, c'est vrai que c'est un quartier fantastique. Et j'adore, je me dis, je sais qu'il y a plein de gens qui viennent et qui disent, bon, après, on va se promener, hein. Quartier sympa.
Bon, alors, donc, on a compris, hein, les deux côtes de bœuf dans le spectacle, c'est pas vrai.
C'est l'un des seuls trucs pas vrai, en fait. Parce que je peux pas dire, je vais reprendre des haricots verts, ça marche plus. Mais parce que je suis bon vivant, mais je mange plus de viande rouge. Voilà, donc
vous savez qu'il y a un resto parisien très connu, des nuits parisiennes à côté de la rue Fontaine, la Cloche d'Or.
Qui est à 100 mètres du théâtre.
Ah là, faut y aller. C'est ouvert, c'est un truc, c'est touristique presque tellement.
T'as faim ou pas? Quelle heure il est?
Oui,
c'est 12h45, bien sûr, évidemment.
On va aller à la cantine. Puisqu'on parle de Paris, quand est-ce que vous êtes monté vraiment là de votre Picardie natale? Vous êtes arrivé à Paris pourquoi et quand?
École de commerce, j'avais dit 20 ans, doit être en 92. 93,
ouais.
92. Je suis arrivé pour mon école de commerce. J'étais arrivé dans une autre radio qui s'appelait M40 à l'époque.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà, qui n'existe plus, qui a changé de nom. Et je faisais une école de commerce et je faisais de la radio en province. Je suis arrivé, j'ai dit je peux être animateur si vous voulez. Au début, ils n'ont pas trouvé ça top. Et puis, assez vite, ils m'ont mis comme animateur les week-ends. Donc, je faisais mon école de commerce. Je faisais la radio le week-end et je reprenais mon école de commerce le lundi.
Ah bah oui.
Mais bon, l'école de commerce, c'était pour faire plaisir. Et puis après, mon papa est décédé. J'avais plus vraiment de raison de continuer l'école de commerce et quand la radio a commencé à bien marcher sur une autre radio ensuite, je me suis dit allez, il faut y aller.
À la fin de ce spectacle 100% libre, vous parlez de votre rêve de faire rire les gens. Hein, c'était ça, c'était animateur, mais au départ vous vouliez d'abord faire rire les gens, c'est
ouais.
Un truc depuis toujours ça.
Quand j'étais gamin, j'avais vu plein de spectacles et c'est très bizarre, ma marraine à Royan, parce que nous on habite en Picardie, mais je partais tous les ans à Royan en vacances, m'emmenait voir des spectacles d'été. Donc j'avais vu le petit théâtre de Bouvard en spectacle, j'avais vu les grosses têtes en spectacle, j'avais vu Patrick Sébastien en spectacle. Je sais pas, il y avait une thématique et je trouvais que voir ces gens qui faisait rire, je me disais mais c'est magique, mais ils ont un courage que je n'ai pas et je serais incapable de faire ça. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de faire rire les gens à la radio, parce que je trouvais que c'était bien d'être caché derrière ce petit micro. Et ensuite le courage est venu progressivement et franchement quand j'ai commencé le premier spectacle, je me suis dit je vais faire 20 dates. D'abord je me suis dit personne viendra. Je vais faire 20 dates, je mettrai que les copains et puis j'arrêterai là. Et en fait, non seulement les gens sont venus, mais en plus, ils ont ri. Et dès les premières minutes, et je me dis, ah ouais, donc ça veut dire que je peux y arriver et que j'arrive à avoir ce courage de monter sur scène. Et vous savez, les 10 premières minutes, encore aujourd'hui, je vais vous donner un petit secret.
Ouais, vas-y.
Que je devrais pas donner. Les 10 premières minutes de spectacle, je suis jamais très bon. Parce que je suis stressé. Pas stressé du public. Et les gens qui ont une espèce de trac. J'ai pas le trac, je suis stressé de me dire est-ce qu'ils vont rire. Et donc je perds mon temps à regarder des visages en disant lui il a pari. Lui il a. Et les 10 premières minutes, mais tout le temps, vous pouvez me mettre dans une salle comblée.
C'est plutôt rassurant.
Et
tout
ensuite,
ça.
Et ensuite, c'est parti parce que le spectacle fait rire tout le monde et je suis content.
Ça va parler de quoi? T'es habillé comme tout le monde, tu ressembles à personne. C'est un livre qui sort chez Robert Laffont au mois de mars prochain.
Je trouvais que c'était marrant à mon âge, peut-être maintenant. Maintenant, quand mes enfants commencent à grandir, peut-être que, comme je suis pas quelqu'un qui raconte ces histoires d'anciens combattants, je me suis dit peut-être qu'en lisant mon bouquin, ils sauront ce que j'ai fait plus tard, ce que j'ai fait avant. Et puis je trouvais que c'était un message pour tous les jeunes qui sont passionnés, pour les gens qui m'aiment bien, qui veulent savoir finalement la vraie histoire de toutes ces coulisses de radio, de ces coulisses de télé, des coulisses de la méthode, des coulisses de personnes que j'ai, les coulisses de la méthode ou qui devaient pas marcher au début,
oui, oui.
Qui pendant 7-8 émissions n'a pas du tout marché et elle n'a fonctionné que par un monsieur qui s'appelait Étienne Moujotte qui a dit qui non seulement après les 3 premières audiences catastrophiques m'avait reçu. Moi je me suis dit ça y est c'est bon, je vais être pendu dans le hall de TF1 par les pieds et ce sera ma dernière apparition télé, mais je m'y étais fait parce que je marchais bien à la radio. À l'époque je crois que j'étais sur Europe 2 et qui n'existe plus et ça marchait très bien et j'avais commencé à me faire une raison en disant bon c'est pas grave, mon métier c'est de faire de la radio et tant pis, j'aurais fait une apparition télé et Moujotte m'avait dit ce truc, m'avait dit moi si je t'ai pris c'est parce que tu racontes n'importe quoi à la radio, je veux que tu fasses la même chose ici, parce que moi j'avais commencé à mettre la veste, madame, mademoiselle, monsieur, je vous voyais des invités, donc j'étais très coincé.
Bon, Sébastien, dans 30 secondes, c'est quand le retour à la télé, parce que je suis sûr que les gens vous le demandent tous les soirs.
Tous les jours, c'est quand tous le retour jours. De la méthode. Très honnêtement, j'ai la chance d'avoir 1,5 milliard de vidéos vues sur YouTube, je sais que ça parle à une génération un peu plus jeune.
Tout à fait.
Et pas tant que ça non plus, parce qu'aujourd'hui tout le monde va sur YouTube. J'ai la chance de m'éclater à la radio, j'ai la chance de m'éclater sur scène, j'adore la télévision. La seule chose, c'est que je le ferai que quand vraiment j'aurai des gens de télé en face de moi qui auront juste super envie de s'amuser et qui diront on va faire de la télé, mais en plus on va faire plein de choses sur le digital ensemble.
Très bien.
Voilà, c'est tout.
Bon, voilà, le petit garçon est devenu célèbre à la radio, à la télé, aujourd'hui sur scène, il fait rire les gens, la boucle est bouclée et l'aventure continue. Si vous avez envie de vous détendre un lundi soir, direction le théâtre la Comédie
Venez.
De Paris, 20h45, lui sur scène, vous dans la salle, vous aurez peut-être l'occasion de faire partie du spectacle. C'est très interactif, c'est surtout 100% libre, Coé vous y attend, profitez-en, merci Sébastien, cher collègue, d'être passé par France Bleu Paris.
C'était un plaisir et bon appétit.
France Bleu Paris. France.